Europe 1.
Sébastien Guyot.
Le débat des grandes voix jusqu'à 11h avec Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Sur quelle jambe danse Emmanuel Macron ? C'est le thème de notre premier débat. La jambe droite, on l'a vu dans la première partie. Parlons à présent de sa jambe gauche. Trois temps forts cette semaine. La loi climat, la plateforme contre les discriminations. Et puis jeudi, ce déplacement à Nantes pour réparer l'ascenseur social qui est en panne, selon Emmanuel Macron. Tendez l'oreille.
La possibilité de ne pas être assigné à résidence, c'est-à-dire assigné au milieu social où on est né, à l'endroit où on est né, est très importante. On peut faire le choix d'y rester. Et il est tout à fait estimable, et si c'est un choix. Mais si on a envie d'en sortir et qu'on se dit simplement « ça n'est pas pour moi », parce qu'il en est, c'est déjà écrit, alors la République a un problème.
Emmanuel Macron était venu présenter un dispositif pour favoriser l'accès des plus défavorisés justement aux plus grandes écoles de l'ENA. Est-ce que l'ascenseur social est en panne ? Est-ce que la République a un problème ?
Ben, si elle a un problème, c'est pas nouveau. Hein, parce que quand le président dit qu'un des problèmes, c'est la fragmentation installée dans certains territoires, quand on a une jeunesse qui, en fonction de l'endroit où elle habite, de la famille à laquelle elle appartient, au nom de qu'elle porte, c'est vrai à la fois pour les enfants d'origine musulmane, hein, et c'est vrai aussi pour beaucoup de jeunes Français, disons d'origine, qui ne peuvent pas faire les mêmes études que ceux qui habitent dans les villes, qui sont d'un milieu social aisé. Ça s'adresse à beaucoup de gens, beaucoup de monde, et ce n'est pas nouveau. Que le président ait l'intention d'y remédier, mais d'abord, ça va être long. Et puis, que propose-t-il ? Les intentions sont bonnes. Et puis, en plus, ce discours, on l'entend depuis très souvent.
Quoi. Alors, ce qu'il propose, ce n'est plus de supprimer l'ENA, comme il l'avait envisagé après la crise des Gilets jaunes, mais c'est d'avoir ce dispositif prépa-talent pour multiplier les chances d'accéder à l'ENA et à quatre autres grandes écoles. Est-ce que ce sont de bonnes propositions qui peuvent plaire à la partie gauche de son électorat ?
Moi, je trouve que ce sont de très bonnes propositions qui avaient été initiées, quand même, il faut le rappeler, il y a longtemps.
Par
Richard Decoing à Sciences Po. Oui. Mais pour avoir vécu
cette
période, en tout cas pour
bien
avoir vécu
avant.
La période où on a essayé de faire entrer des gens des ZEP dans Sciences Po, Richard Decoing s'est heurté à beaucoup de difficultés. D'abord, du côté de l'éducation nationale, je sais parce que je les ai vécues, puisque j'ai fait passer les premiers examens des élèves des ZEP. Mm-hmm. Donc beaucoup de difficultés du côté de l'éducation nationale. Et beaucoup de difficultés de la part des élèves de Sciences Po, qui disaient « Alors quoi ? On nous fait un Sciences Po au rabais ?» Alors que les élèves, lorsqu'ils passaient leur concours, l'avaient préparé sans doute plus que d'autres, et donc étaient très très bons. Reste après le principe de l'intégration. Donc moi, je crois que c'est quand même quelque chose de très important, qui peut donner un sang nouveau. Alors ça prendra du temps, voilà. Catherine a raison. Mais ça peut donner un sang nouveau à ces grandes écoles, parce que c'est vrai qu'il n'est pas normal qu'à l'ENA, il y ait moins aujourd'hui de représentants de classes modestes, d'ouvriers, etc., qu'il y en avait il y a 10 ans. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me choque, moi.
Et donc là, il y aura 1000 places supplémentaires pour les prépas et une allocation doublée à 4000 euros.
Oui.
Charles Villeneuve.
Mais enfin, le problème, ce n'est pas l'ENA. Le problème, ce n'est pas l'ENA, c'est l'école publique. Ce sont les lycées qui préparent justement aux grandes écoles. Or, si vous voulez, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces établissements-là, qui mal placés dans des quartiers mal placés ou dans des zones mal placées, ne parviennent plus aussi bien qu'avant, qu'hier, à favoriser l'ascenseur social. C'est ça le problème, le vrai problème. L'ENA, c'est quoi ? C'est 80 énarques par an qui sortent. Et puis, il a renoncé à dissoudre l'ENA. Il a raison, dont il est issu d'ailleurs, il a raison. Parce que c'est quand même une école d'excellence. Simplement, il ne s'agit pas de, en permanence, nommer plutôt des énarques que des gens de normal sup à des postes, si vous voulez, de la bureaucratie française qui est déjà, si vous voulez, surmultipliée sur ce plan-là. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, la troisième voie, elle existe. C'est d'ailleurs un député communiste, Anis et Leport, qui a initié la troisième voie. Il y a deux concours à l'ENA. Il y a le concours externe et il y a le concours interne, ouvert aux fonctionnaires. Et puis, il y a la troisième voie. Alors, cette troisième voie, comme l'a dit d'ailleurs Michel
Cotta,
c'est vrai qu'elle est beaucoup plus difficile, si vous voulez, à utiliser qu'on ne le croit. Mais pour moi, si vous voulez, c'est une mesurette. La vraie mesure, c'est de voir et d'examiner comment on peut faire des lycées mal placés, ce que je dis mal placés, c'est-à-dire dans des territoires de la République où on conteste pas mal justement les valeurs de la République.
Mais pas seulement.
Des lycées.
Sur tout le territoire.
Des lycées qui redeviennent des lycées d'excellence, ce qu'a été l'éducation nationale française.
Mesurette, alors, dites-vous, Charles Villeneuve.
On parlera un autre moment de la carte scolaire, parce que tant que la carte scolaire existe, telle qu'on met dans des quartiers ou dans des lycées qui sont moins bons que les autres, tout le monde sans discernement, qu'on ne choisit pas ceux qui sont les meilleurs pour les pousser, on n'arrivera pas à grand-chose, on est d'accord.
Bien sûr.
Il faut voir l'enthousiasme que mettent les jeunes gens des ZEP pour passer Sciences Po. Je peux vous dire qu'il leur faut du courage vis-à-vis de ceux qui les regardent à Mantes-la-Jolie ou à Garches,
mais aussi
et du courage
dans le 7e
par rapport aux types qui les attendent à Sciences Po.
Mesurette, vous disiez, Charles Villeneuve, est-ce que l'autre mesure présentée hier, même si Emmanuel Macron ne s'est pas présenté pour la développer, c'est cette lutte contre la discrimination par Internet, par téléphone, une plateforme, des jurys spécialisés, la défenseur des droits qui est en première ligne, un budget de 3,5 millions d'euros. Est-ce que c'est une mesurette, un simple gadget ou non?
Non, mais il faut voir. C'est très difficile de dire si là, par rapport à cette initiative, si c'est une mesurette ou pas. C'est une fabrique à contentieux, ça c'est sûr, de toute façon. Et ça va finir au tribunal, la plupart des plaintes. Et c'est après coup qu'on pourra juger de son efficacité. C'est difficile de dire aujourd'hui, finalement, c'est quand même une initiative intéressante. Simplement, il nous faudra du temps pour la juger.
Catherine Ney, la troisième mesure de la semaine plutôt à gauche, c'était cette loi climat présentée en Conseil des ministres. Le président de la République a retenu 146 mesures de la Convention citoyenne, partiellement en tout cas, 28 ont été écartées. Mais pour autant, il y a 110 associations qui disent le compte n'y est pas.
Mais ça, c'est toujours le même problème avec l'écologie. Vous savez que c'est une religion qui a ses grands prêtres et ses laïcs. Bon, ben pour les grands prêtres, c'est jamais assez. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une urgence parce qu'on dit la maison brûle, quoi. Et la maison brûle, voilà, drôlement. Alors, moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui doivent être votées et qui sont un mieux. Mais est-ce que c'est un pansement, un cautère sur une jambe de bois? J'en sais rien. Mais il y a les politiques qui disent si on va trop vite aussi, ça peut créer des problèmes économiques et sociaux trop graves. Donc, il faut y aller mollo, vous voyez. Donc, et ça, depuis qu'on parle d'écologie, c'est exactement la même rupture qu'il y a entre les religieux et les laïcs.
D'un mot, Charles Villeneuve.
Oui, d'un mot, si vous voulez, parce que c'est une...
On va faire une pause, c'est pour ça.
Oui, enfin, mais ce nouveau continuer. Clergé dont parle Catherine Ney, Emmanuel Macron ne peut pas le négliger. Parce que c'est un combat où il peut perdre pas mal de plumes, pas seulement des voix, mais aussi de sa crédibilité. Et il en a parfaitement conscience. Il n'a certainement pas oublié que le mouvement des Gilets jaunes a été lancé sur deux mesures, justement, carbone, la taxe carbone. Et la vitesse à 80 km à l'heure dans pas mal de territoires français, qui était à l'initiative de cette mesure, c'était le Premier ministre, Édouard Philippe. Bon, et ça a provoqué pas mal de dégâts, d'où les manifs. D'ailleurs, ça a allumé le mouvement des Gilets jaunes. Et il s'en est souvenu. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, il est revenu sur 28 des propositions de la Convention citoyenne. Mais c'est lui qui a dit, qui s'est engagé, en disant que toutes les initiatives des 150 membres de la Convention citoyenne ne seraient pas filtrées et seraient appliquées. Or, il voit très bien que certaines des applications et des propositions provoqueront vraisemblablement pas mal de déficits, non seulement sur le plan des voix, mais sur le plan aussi de leur application.
On continue à parler de ce débat dans un instant. Michel Cotta, je vous assure, je vous donne la parole juste après cela, tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Et le débat des grandes voix avec Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta. Michel, je vous avais promis de vous redonner la parole sur la loi climat. Vous vouliez ajouter un mot à propos de ces associations qui dénoncent le fait que ça n'aille pas assez loin.
Non, je crois qu'on voit vraiment la difficulté d'Emmanuel Macron. Là, sur cette loi climat, personne n'est allé jamais aussi loin que le propose la loi, avec l'artificialisation des sols, la création d'un délit d'écocide. C'est pas rien. Donc personne n'est allé aussi loin. Personne n'est allé aussi loin, et pourtant il y a d'un côté les écologistes qui disent ah ben non, ça va pas assez loin, non, et puis certains économistes qui disent attention, si vous arrêtez là Si vous arrêtez l'économie en France avec vos décisions écologistes, c'est embêtant. Donc, ça, c'est sur le... il a donc une gauche et une droite, au fond, des adversaires des deux côtés. Mm-hmm. Et c'est la même chose sur la loi
séparatisme.
Il y a à côté des gens qui trouvent qu'il va trop loin, et de l'autre, des gens qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, qu'il n'en fait pas assez, qu'il faudrait mettre tout ça en prison, etc. Donc, il est quand même toujours sur une ligne de crête. Alors, c'est le principe du en même temps.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Mais
c'est le problème
à un moment donné, il ne faut pas que le en même temps se transforme en grand écart.
Non, mais je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Alors, il joue gros sur la loi sur le séparatisme. Il joue gros sur, évidemment, la crise sanitaire. Il joue gros sur la loi sur l'écologie. Alors, il joue gros. Et alors, ce qui va être... Mais il a quand même encore entre 38 et 40% d'opinions positives.
Oui, il a
et
un surtout, socle solide.
Il a un socle solide, mais c'est vrai qu'il va être, mais comme l'a été, par exemple, Nicolas Sarkozy. S'il est candidat, tous les candidats seront contre lui. Il sera criblé de flèches de tout le monde, vous voyez.
Alors vous
donc,
dites, oui.
Donc vous... comment, où en sera l'exaspération, l'envie de changer à ce moment-là, les Français qui en auront ras-le-bol. Je veux dire, c'est, tout peut se jouer,
passer.
Là, cette fois, au premier tour. Alors parce qu'il peut soit franchir et être devant, soit, comme il l'a dit d'ailleurs aux jeunes... Il l'avait interviewé, vous savez, sur Brut. Il a dit peut-être que je ne pourrais pas me représenter. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il assaille comme problème, tout ce qu'il essaie de résoudre, la difficulté, parce que c'est quand même rarement un président a été confronté à de telles difficultés cumulées.
Alors, il joue gros, vous dites, Catherine Ney. Oui. Il aime prendre son risque. Hein, c'est une expression qu'il affectionne particulièrement. Et il l'a pris, d'ailleurs, son risque, en décidant de ne pas reconfiner, malgré les avis des scientifiques, Charles Villeneuve. Et pour le moment, eh bien, les chiffres lui donnent raison.
Oui, c'est vrai, pour l'instant. Mais il y a quand même un grain de sable qui s'est introduit dans la machine. Et on le voit avec la Moselle, la région de la Moselle. Ce matin, Arnaud Fontanet, qui fait partie du conseil scientifique, éminent professeur, et qui est assez sage en
et
général dans ses propos,
antenne.
Qui était sur Europe 1, oui, j'allais le dire.
À 8h15 dans la matinale de Pierre de Villeneuve,
voilà.
Absolument.
Et lui a bien dit, de toute façon, il a très bien analysé le danger. Bon, ce danger, pour l'instant, ne s'est pas exprimé complètement avec les variants, puisque c'est une épidémie dans l'épidémie. C'est-à-dire que le virus classique, lui, a muté, hein, dans d'autres pays, c'est le variant anglais, c'est le variant sud-africain, c'est le variant brésilien, qui sont beaucoup plus contaminants. Mais pour l'instant, ça tient. Le système tient. Et donc, on peut arriver, si vous voulez, à un confinement territorial. Bon, la décision n'a pas été prise.
Mais elle
ce
sera
qu'il faut
prise
saluer,
une fois encore par l'exécutif.
Voilà, mais ce qu'il faut saluer chez Macron, c'est qu'il a, en quelque sorte, rétabli la primauté du politique sur les propositions scientifiques. Car les scientifiques ne sont pas là pour imposer, ils sont là pour proposer.
Oui. Alors, pas de confinement à trancher le chef de l'État pour le moment, sauf que, tout peut arriver à tout moment, et c'est d'ailleurs ce qu'a répété sur notre antenne, sur Europe 1, Gabriel Attal.
Tout est possible, rien n'est exclu. Ce qu'il faut, c'est prendre les mesures qui sont les plus appropriées pour lutter contre la propagation de ces variants. Mais on ne peut pas, d'un côté, regretter parfois que les décisions soient prises sans concertation avec les élus. Et quand un ministre se déplace pour faire la concertation avec les élus et les autorités de santé, considérer qu'il faudrait que les mesures aient été déjà prises.
Mais on imagine que vous anticipez cela.
On regarde en permanence quelle est la situation. Et quand des mesures sont nécessaires, on les prend. Et s'il y a des mesures à prendre au niveau local, elles seront prises.
Le porte-parole du gouvernement avec Sonia Mabrouk cette semaine sur Europe 1. On pense bien sûr à la Moselle, vous y faisiez référence, Charles, il y a un instant. Plus de 300 cas de variants. On a vu
Olivier
Véran.
Il y a déjà eu la Mayenne, où il y a eu un traitement spécifique qui a très très bien marché.
Sauf que là, Catherine, les élus locaux réclament le confinement local. Et Olivier Véran, hier, leur dit non.
Enfin, pour l'instant.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Non, c'est pas un non définitif.
C'est pas un non définitif. Et encore une fois, si certains élus demandent, il n'est pas sûr que leur population le demande aussi. Parce que c'est ça tout le problème. La santé, ce n'est pas seulement le virus. La santé, c'est la santé morale et physique et psychologique et économique du pays. Donc, quoi qu'il se passe, même s'ils devaient confiner demain la Moselle ou une partie de la France, quoi qu'il se passe, ça aura fait un mois d'économie en plus. Et peut-être qu'il faut, alors que les chiffres, peut-être qu'il faut s'en réjouir, alors que les chiffres restent pour le moment identiques. C'est 21 000 hier.
Plus de 20 000 cas en 24 heures, en effet, mais, avec 26 000 hospitalisations.
Mais il y a les variants, mais il y a les variables sur lesquelles le président de la République juge de sa stratégie. Et il en tire, si vous voulez, des leçons. Et les variables, c'est ce que vient de dire Michel. C'est-à-dire, elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont morales et, bien sûr, psychologiques. C'est la raison pour laquelle il y a les élus locaux, très bien, qui sont les porte-parole de la population, mais il y a aussi la population entière. Et cette population-là, pour l'instant, elle préfère ne pas être reconfinée.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il espère pouvoir jouer la... Vous savez, c'est comme quand on a plongé et qu'on remonte par palier. Mmh. Il espère que là, comme l'épidémie, la pandémie est à peu près contenue, pouvoir peu à peu remonter, lâcher des choses. Peut-être que dans 3 semaines, ça sera les musées, ça sera... Vous voyez, peu à peu, enfin, il espère. C'est sa stratégie. Alors, je ne sais pas s'il y arrivera. Mais de toute façon, c'est le politique, c'est lui seul qui aura à rendre des comptes. C'est lui qui a porté de baffe de l'opinion. Et donc, ce n'est pas au médecin de jouer sur l'opinion publique pour dire il faut faire ça ou ça.
Enfin, pour l'instant, on est dans le grand bleu. Hein.
Comment ? On est dans le grand bleu.
Oui, mais, on a... mais les médecins, pour le coup, accentuent le grand bleu. Oui. Parce qu'il y en a, ils parlent tous, ils continuent à tous parler. On entend un peu moins parler d'Elfressi en ce moment, ce qui est quand même pas mal.
Parce qu'il s'est fait
mais
taper sur les
ils parlent tous, oui. Ils font peur. Quelque part, ils font très peur à la population. Et de l'autre côté... On entend, ah oui, mais peut-être qu'on peut confiner, mais on peut s'en sortir. C'est vrai que je ne sais pas ce que les gens ressentent en eux durant ce chiasme des positions.
Vous restez avec nous, les grandes voix, dans un instant. La ville de Trappes est-elle menacée par les islamistes ? La polémique enfle après les déclarations d'un prof de philo. A tout de suite.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.